Tiens, mets celle-là si tu veux transpirer.
C'est
quand
même le premier épisode de Comment vous avez fait. Mmh. Hein, on n'est pas peu fiers. Merci pour pour l'avant-première.
Oula, c'est bon, ça pique.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti.
Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'innover avec un comment vous avez fait puisque je reçois Olivier Kini et Luc Sananès.
Bonjour tout le monde.
Co-fondateur de Lénissois et Hahaha. J'ai bien
très,
fait.
Très bonne prononciation.
Ok. Bon,
sur le soi, c'est la CDI, c'est parfait.
Ouais, mais j'ai fait espagnol au collège. Salut à vous deux. Bon, vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous êtes hyper créatifs. On a échangé un petit peu au téléphone avant. Vous avez lancé deux marques plus une super idée que j'adore. Il est là, le fameux Rosé Garcia avec José Garcia qu'on connaît tous.
Magnifique.
Ouais, magnifique, mais j'adore l'idée, je trouve ça tellement évident.
On va te raconter après l'histoire du vin.
Bah ouais, parce qu'elle est pas de nous en plus, donc c'est incroyable.
Bon. Et ben on y va. Un épisode qui s'annonce étonnant, je sais pas comment je vais arriver à vous gérer, mais on va y aller. On va parler de trois grands sujets. Le premier, c'est comment vous avez fait pour passer d'une idée d'entre copains à entrepreneur ensemble. Donc on va aller creuser un peu vos parcours. On va ensuite aller sur le sujet de comment vous avez fait pour lancer plusieurs marques, vous organiser et puis aussi embarquer une célébrité hein, dans l'histoire. Et puis, dernière partie, quelle est l'ambition, le plan où est-ce que vous voyez dans 5, 10, 15 ans avec les Niçois et les autres marques que vous avez? Ça vous va?
Chambé, super.
Bon, on part pour une heure de bonheur.
Allez.
Et de bonheur surtout.
Et de dégustation.
Ouais, je vois que j'ai un peu peur, mais on va y aller. Pour commencer, la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais vous demander plutôt individuellement. Mm-hmm. Je vous laisse choisir qui commence. L'idée pour moi, c'est d'arriver à comprendre qui vous étiez, Luc et Olivier, avant de vous lancer en entrepreneuriat. Quelles études vous avez fait? D'où vous venez? Est-ce que vous avez des entrepreneurs autour de vous? Alors, pas du tout. Comprendre un peu votre parcours et surtout, qu'est-ce qui a été le déclic pour se lancer? Qui commence?
On est rejette. Donc, alors, moi, je suis Olivier Kini, j'ai 45 ans. J'ai un parcours un peu atypique, mais c'est pour ça qu'on s'est bien rencontré avec Luc et qu'on en est là, je pense, aujourd'hui. Le seul entrepreneur que j'ai dans ma famille, il faut quand même rendre à César ce qui est à Armando, puisque mon père s'appelle Armando.
Et il est entrepreneur.
Il est entrepreneur. Et lui, il est grossiste à Rungis depuis un paquet de temps. Mmh. Autrement dit, je suis né un peu dans un frigo, tu vois, et j'ai eu l'habitude avec toutes ces tournées, machin, tu vois, de me réveiller tôt et de connaître d'un peu plus près l'univers des restaurants et tout ça. Donc ça, c'est le petit background entrepreneur. Après, ayant vu ça, j'ai surtout pas fait ça.
Tu t'es dit, c'est pas pour moi.
Parce que visitant toutes les arrières-cuisines, tous les chefs et toutes les galères, pas que j'aime pas me réveiller tôt, mais je me suis dit, c'est pas mon délire. Résultat des cours, j'ai fait une école de journalisme à Paris. Mmh. Parce que rien à voir. Ouais. Rien à voir. Et au bout de 3 ans, bon, je ne vais pas te raconter tout mon parcours, mais de journalisme, je suis passé de producteur de télé. Puis producteur de télé, j'ai bossé 7-8 ans avec Ardisson et toute la bande d'Ardisson, tu vois, produire pas mal de trucs. Après, j'ai arrêté pour créer un label de musique, où là, je ne produisais plus des émissions, mais des artistes. J'organisais des tournées et tout ça, tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Luc. Après 7-8 ans de label où je produisais des émissions, je produisais de la musique, je produisais des artistes et compagnie, en fait, j'avais envie de produire un lieu.
D'accord.
Tu vois? Parce que j'avais des goûts un peu spéciaux et dans les restaurants où j'allais, j'étais pas très à l'aise. Aimant beaucoup Roulieu Iglesias, par exemple, tu vois, j'aimais bien aller dans des endroits où c'était un peu spécial, quoi, tu vois. Et je trouvais pas de lieu un peu sympa. Jusqu'à ce que.
Ouais. Et étant quand même allé à l'école à Armando, je travaillais dans un resto, on s'est quand même rencontré parce qu'il essayait de me refourguer les fruits et légumes de son père. Donc, il a monté un label, il a fait plein de trucs, mais il a gardé un pied dans le frigo quand même.
Un peu entrepreneur quand même, il fait du business.
Je faisais du business un peu avec le label, tu vois. On a quand même fait des trucs bien, on a quand même produit Rodriguez. Je peux te rappeler un peu de Rodriguez. Oui. On a fait les tournées de Rodriguez, on a quand même fait des trucs. Mais bon, j'en avais un peu marre de la musique. Je rencontre Luc. Je voulais ouvrir un resto, enfin ouvrir un lieu, un truc un peu chelou et tout. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Luc parce que je produisais un artiste qui était nôtre que le cousin de Luc. Donc d'accord. On s'est rencontrés par la musique. Je vais pas vous raconter son histoire, mais on s'est rencontrés par la musique. Et le truc qui nous a vraiment associés, c'était le besoin d'avoir un spot différent à Paris où on pouvait exprimer notre. C'était un peu des gros mots, tu vois, mais un peu notre créativité, quoi. Donc c'est vraiment parti de là.
Et quand tu étais en label de musique ou production audio, tu étais à la tête de ces activités ou,
Non, j'étais. C'était mon premier boulot. Je suis resté 8 ans. J'étais journaliste et puis un peu rédacteur en chef et puis après producteur. Donc j'étais beaucoup de prod-exé. Enfin, tu vois, je faisais beaucoup de reportages, de sujets, un peu d'émissions et tout ça. C'était pas du tout ma boîte. C'est pour ça que j'en suis parti pour monter mon label avec d'autres associés. Parce que j'adorais la musique et j'avais, tu vois, mon parcours est vraiment à chaque fois que j'ai fait des rencontres, enfin c'est les rencontres un peu déterminantes, enfin c'est un peu tout le temps pareil, tu vois, mais c'est quand t'as pas de vision hyper claire au démarrage, bah tu passes de bonhomme en bonhomme et puis tu suis un
et puis là où t'as de l'énergie aussi, enfin,
c'est ça, donc, si envie, c'est ça, rencontre les bonhommes que tu rencontres, tes envies. Je suis parti de la télé parce que j'avais envie de m'écouter, j'avais envie de créer de la musique, donc je suis parti, j'ai écrit de la musique. Ça a duré un temps, j'avais besoin de créer autre chose. C'est vraiment quand même un truc de création. Donc j'avais besoin de créer autre chose, raconter un autre truc, m'exprimer autrement. Le besoin d'ouvrir un lieu, un peu chelou. C'est là où j'ai rencontré Luc. Et c'est là que j'ai quitté la musique et qu'on a lancé Les Niçois.
Ok. Voilà. Bon, bah écoute, merci.
Bien résumé, ça va ?
Ouais, écoute, j'ai encore des questions pour toi, mais on va laisser Luc s'exprimer. Toi ?
Moi.
Dis-moi que tu l'as rencontré aussi en soirée grâce à la musique, parce que sinon, je comprends
pas. Pas du tout. On s'est rencontré en soirée encore, c'est un truc incroyable. Non. Donc moi, Luc Sananès, 39 ans. Ouais. Je suis né à Nice, bien entendu, d'où les Niçois, en partie. J'ai un parcours qui est un parcours d'école de commerce américaine à Paris, où on nous a tout appris sauf à être structuré. Donc c'était vraiment pensé hors du moule. C'était une toute petite école qui a fermé depuis. Je pense qu'il y avait trop de magouilles à l'arrière. Enfin bref. Donc il a formé que des profils un peu bâtards, mais plutôt sympathiques. J'ai terminé ces études-là et j'avais un truc, moi, qui me faisait vibrer, et qui me fait toujours vibrer d'ailleurs. C'était, et c'est un peu bateau, mais c'est le voyage. J'ai eu la chance de faire des études et de voyager. Donc j'ai terminé cette école à Paris où j'ai quitté mon Nice natal pour venir à Paris 5 années. Le temps de voyager un peu en Espagne, etc. Derrière, je suis parti faire un master en Australie, spécialisé toujours en entrepreneuriat pour le coup.
Et avec comme cette dimension entrepreneuriale.
Ouais, c'est travailler pour les autres, c'était quelque chose que j'avais un peu de mal à apprivoiser. Je pensais de manière un peu différente à chaque fois que j'allais en stage et faire des trucs comme ça. Donc, j'étais pas très 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 à l'aise. C'était pas quelque chose qui me motivait. Pour le coup, créer mon truc et avancer et me taper sur la gueule si ça avançait pas, c'était quelque chose qui me parlait plus.
Donc être responsable de ses réussites, mais aussi ses échecs.
Exactement.
Ou ses
exactement. Avec toujours un minor, j'ai toujours bossé en restauration. Depuis que je suis tout gamin, pour payer mes études, j'ai fait plongeur, commis, serveur, barman, etc. Voilà, donc au début, c'était purement alimentaire. Derrière, quand je suis passé dans ce master justement en Australie, j'avais un minor en hospitality management, donc en plus ou moins hôtellerie-restauration. J'ai eu la chance, une fois que j'ai terminé mon master en Australie, d'aller faire un master au Mexique. Spécialisé dans la culture mexicaine, donc rien à voir en plus, mais rien à voir.
On y reviendra sur le Mexique.
Un peu de sens avec.
Exactement, ça vient pas de nulle part non plus. Et quand je suis rentré à Paris, c'était 2009, pleine crise économique. Moi, je voulais un boulot où justement j'étais pas mon propre patron, mais j'avais des projets qui changeaient régulièrement. Je voulais être dans le conseil. Pire moment, je pense, du siècle pour faire ce genre de métier parce que tout était en train de s'écraser. Donc. Mon cousin qui était dans la musique, qui était produit par le célèbre Olivier Quigny et son label Roy Music.
Autrement dit, nous que toi.
Voilà. Ce gros malin, il leur plug une synchro sur la pub Kenzo Flower. Donc, l'album explose. Oui. Et là, il me dit, tu cherches du taf en ce moment. Moi, je vais prendre un tour manager. Je lui dis, c'est quoi tour manager? Je sais rien faire dans la musique. Il m'a dit, faut juste organiser et que ça se passe bien. Donc, je les ai accompagnés pendant 2 ans et demi, d'accord. Un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré Olivier à ce moment-là.
Ok.
Voilà. Retour de tournée, on est en 2013. J'ai un de mes anciens potes de Paris qui m'appelle et qui me dit « Ouais, t'es toujours dans la restauration ?» Je dis « Oui, plus ou moins. J'ai un spot à te montrer dans Paris, dans le 11e. Je vais visiter l'endroit. » C'était bizarre, c'était horrible, c'était sombre, c'était un peu oppressant comme endroit. Il me dit « Tu peux pas accompagner, c'est des potes à moi, vois un peu s'il y a moyen de redresser la baraque, etc. » Chose que j'avais déjà faite avec 2-3 établissements avant. Je me pointe et là, en fait, l'endroit, c'était insauvable. Mmh. Et je lui dis « Bah non, écoute, là, ça va dans le mur. Donc, si tu veux, moi, pour le coup, j'ai un projet de resto. J'ai un projet qui n'est pas vraiment un resto, qui est on va utiliser les grands mots encore, lieu de vie. » Truc qui est ouvert un peu tout le temps, 7 sur 7, avec des formats différents pour le midi, pour le soir, pour le week-end, etc. On peut aller de 3 à 99 ans. Et je leur dis, bah, on peut potentiellement racheter vos dettes. Mmh. Donc, pour qu'eux, ils partent quittes et que nous, on ait un resto pas très cher. Donc, ça me vient en tête. Et là, à ce moment-là, je suis allé voir Kini, qui avait son label, parce que moi, j'avais pas une flèche. et en gros, je lui évoque le projet. Ouais, truc, grande table, on rigole, les potes, tu viens à 2, tu finis à 25, ça chante, un peu de zik à l'intérieur, etc. Un vrai lieu vibrant, pas chiant, pas cher, mais où on travaille tout de A à Z, fait rien rentrer déjà de fait, pas de boîte de conserve, pas de saloperie. Je dis, ça va s'appeler le Mimosa. Il me dit, écoute, mec, t'es sympa.
Attends, il me raconte ça sur le chantier. Ouais. Donc, je crois qu'on avait à peine signé l'histoire. Ouais, tu vois, donc il me raconte la carte, le menu, t'avais envie de tout bouffer, de tout boire, il me met la visite et tout, bah, tu vas casser ça et tout machin. Et à la fin, il me dit, bon, ça va s'appeler Mimosa et ça va cartonner.
Et là, tu dis, comment t'as choisi le nom ?
Et je dis, Mimosa, ça va pas le faire. En revanche, il me raconte ces trucs.
Rien contre Mimosa,
il me raconte des trucs de niçois, ouais. De bande, tu vois, de trucs un peu sudis, genre, je sais pas, j'entends la plage et tout ça. Et je dis, attends. Tu changes rien, sauf on amène ça les niçois dans un truc, tu vois, parce que on aimait bien le côté un peu bande et quand tu penses lieu resto, moi j'aime bien aller chez quelqu'un, quoi, tu vois. J'aime pas être le quelqu'un, mais j'aime bien me dire que je vais chez quelqu'un ou chez des gens machin. Et le côté les niçois, tu vois, ça rassemblait toute sa carte, le sud, la pétanque.
Tu faire chez Luc et Olivier ou...
Ouais, dépression. C'est
un peu. Parce que c'est une... enfin,
Luc et
Olivier,
ça fait un peu bar.
un peu PMU, quoi.
Mais les Niçois, ça, tu vois, ça faisait une espèce de marque ombrelle où t'avais la bande, les copains, la plage. On a mis un terrain de pétanque au sous-sol. Là, on était en 2014. Et donc, on lance le resto. Attends, pardon, je fais un peu un truc, mais on lance le resto. Et pendant 2 ans, c'était plein tous les soirs, tu vois. C'était très bizarre.
Il y a 140 mètres carrés et pendant 2 ans, il y avait 300 personnes par soir. Ouais. C'était du délire pur et simple.
Et c'est con, mais il y a 10 ans, parce que on a ouvert là, on fera les 10 ans du restaurant là en janvier. Il y a 10 ans, le 11e, c'est pas le coupe-gorge, tu vois, mais c'était genre, on ne sait même pas où c'était. Il y avait un square. C'était genre, c'est où votre restaurant, rue, quoi, la charrière, on ne connaît pas, le square, on ne connaît pas.
Mettre un truc autre que des tables dans un restaurant, ça n'existait pas encore. Ouais. Quand l'entrepreneur, je lui dis, mec, on va péter la dalle de l'immeuble, on va faire un terrain de pétanque, Maria me fait, t'es fou. Vas-y, viens, on va le faire, on mettra du parquet par-dessus, ça va rester planqué.
Il y avait un piano, un terrain de pétanque, des grandes tablées, ils arrivaient à 10, on les mettait sur une table de 2. Tu vois, les gens, ils comprenaient pas trop. C'était une autre époque, il n'y avait pas tous les influenceurs, il n'y avait pas les téléphones. Tu vois, c'est con, hein. Ouais, mais tu te remets 10 ans arrière, il n'y avait pas les débiles avec les téléphones. Dès qu'il y en avait 2, on interdisait les téléphones à table. Tu vois, on a créé un lieu où les gens, ils étaient perdus, ils ne savaient plus où ils étaient. Ils arrivaient, ils allaient, ils dînaient à 2, ils allaient au piano à 4, ils finissaient à 10 à la pétanque.
Alors justement, par rapport à ça, on va en parler, parce que le positionnement, pour moi, ça m'intéresse aussi, la dimension marketing et positionnement par rapport aux autres restaurants, hein, qui peuvent exister sur le marché. Mais pour finir sur toi, Luc, tu disais que tu as fait commerce et tu as beaucoup voyagé. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, est-ce que tu avais des entrepreneurs aussi autour de toi? Et est-ce que, qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers des études de commerce et pas autre chose?
J'étais très mauvais en sciences. J'aurais voulu faire des sciences à la base, mais j'étais très mauvais, donc il ne faut pas s'acharner. Et en fait, commerce, c'est ce qui m'a donné le champ le plus libre pour la suite et pour explorer plein de domaines. J'ai fait une tonne de boulots différents. J'ai travaillé à Dubaï dans des boîtes qui fabriquaient des bateaux en bois. J'ai travaillé avec des cabinets d'archi. J'ai travaillé, comme je l'ai dit 10 fois, dans la, dans le comment ça s'appelle dans la restauration. J'ai fait j'ai travaillé dans des garages automobiles, j'ai fait une tonne de boulots différents qui m'ont permis d'acquérir des compétences un peu particulières, même la tournée et l'organisation que j'ai faite dans la musique là, pendant 2 ans. Ça m'a ouvert les champs sur tout un truc d'événementiel. Ouais, et des opérations sur des plages privées dans le sud que j'ai pilotées pendant 2-3 mois. Ça m'a donné une envie, une appétence qui s'est concrétisée à la base dans un seul lieu. Parce que ce resto, quand on l'a signé, voir que pendant 7 mois, on y était tous les jours avec un burin à taper de la pierre. On a fait tous les travaux nous-mêmes avec deux entrepreneurs qui nous ont filé la main. On a accouché du truc. Je parle de tout, du pot à couvert en fer forgé que mon grand-père nous a fait à 91 ans dans le sud, qu'on a remonté, etc. Aux lumières, au sol, la grande mode des cagettes, elle n'était pas encore là il y a 10 ans. Là, on avait quand même fait tout un arrière-bar en cagette, ce qui était horrible pour bosser. Mais bon, bref, on l'a fait à la débrouille. Et ce truc-là, c'était la concrétisation de toutes ces expériences.
Ouais.
Et en fait, derrière le chemin de carrière qu'on va vous raconter là, c'est aussi, ça s'appuie aussi sur les fondations qui ont été faites par 10 années de bordel à vagabonder et à bosser dans
Ouais, parce que finalement, tous ces voyages, toutes ces expériences, ça nourrit aussi. Vous avez pu faire un patchwork de « Ok, mais qu'est-ce qui m'intéresse ?» On parlait de musique, on parlait de lieux, on parlait de pétanque. Enfin, tout ça, c'est intéressant. Et par rapport justement au positionnement, parce que alors, moi, je viens du marketing, on se dit souvent qu'effectivement, il faut être clair sur son positionnement pour arriver à se démarquer ou autre. Là, quand tu dis on arrive dans un lieu, on ne sait pas trop ce que c'est, je pense que c'est hyper clivant. Soit il y a ceux qui disent bah, attends, moi, je voulais aller dans un resto, ce n'est pas du tout pour moi. Et à l'inverse, ceux qui se disent je suis ambiance, les copains, je veux aller passer un bon moment, quitte à même rencontrer des gens que je ne connaissais pas, m'attabler avec les autres à côté, boire une bière et puis finir par faire une pétanque jusqu'à pas d'heure. Bah, ce n'est pas du tout le même client finalement pour vous. Comment vous avez vendu ça au départ?
Tu l'as dit dans ta phrase, tu as dit les gens ils vont passer un bon moment. En fait, tout ce qu'on a fait, nous, depuis 10 ans ensemble, c'est créer des moments. On a créé des moments qui étaient majoritairement plaisants. Mais si tu regardes le Google du restaurant Les Niçois, tu vas dans les commentaires, tu vas beaucoup rire. Parce que justement, tu dois avoir 80% de gens qui ont passé des super moments, mais tu as 20% de gens qui, comme tu le disais, ne comprenaient pas.
Justement, les amis. et en fait, je suis allé voir la fiche avant et je me suis dit, tiens, je vais regarder la note. Et je me suis dit, ah, bon, bah, soit on aime, soit on n'aime pas, en fait.
Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu viens pour faire un dîner romantique et que tu te retrouves avec 20 potes à côté en train de faire une fiesta, forcément, ton expérience, elle est un petit peu. Voilà. Et en plus de ça, s'appelant les Niçois...
Quand tu viens sur une table de 4 et t'as 4 personnes qui prennent leur téléphone et que j'arrive en disant, écoutez, je suis désolé, mais en fait, je vais vous demander de partir. Parce qu'en plus, j'ai un humour un peu spécial. Et en plus, ils disent, excusez-moi, ils demandent au serveur, c'est qui? C'est le patron. Donc, si tu veux, on a créé volontairement des accidents pour... créer, en fait, je ne sais pas si tu es conscient, mais on a volontairement créé des accidents pour fédérer je ne sais pas si c'est un storytelling, tu vois, des trucs du marketing, parce que ce n'est pas ça. Mais,
non, je dirais
que
c'est un parti pris.
Mais c'est un parti pris. En plus, on est comme ça. Moi, j'ai 4 personnes au téléphone sur une table. En fait, je n'ai pas envie qu'ils soient là. Je préfère qu'ils aillent téléphoner dehors ou alors ils reviennent. Donc, je leur dis, faites une pause. Donc, c'est peut-être pour ça ce qu'il y a dans les commentaires, tu vois.
Mais c'est super intéressant parce qu'on voit que, effectivement, ceux qui adorent, alors, j'imagine que c'est des clients récurrents. Ils viennent mais de manière récurrente. C'est vraiment le lieu qu'ils ont trouvé. Mais c'est très fort d'avoir ce parti pris. Et justement, je pense que les restos qui ne marchent pas, c'est aussi ceux qui veulent tout faire et rien faire et qui n'ont pas ces partis pris-là et qui ne les affirment pas. Enfin, moi, je le vois avec BuzzNative, notre agence de com, conseil aux clients, ayez un parti pris et affirmez-le. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous plaisez à personne au final. Personne n'a envie d'être comme tout le monde en fait.
Bah nous,
donc je trouve ça fort que vous ayez fait ça.
Dès le départ, on a voulu être nous avant de ne pas être comme tout le monde. C'est quand même, c'est quand même différent quoi. Les pages d'or, attends, on ne va pas être comme tout le monde. Non. On a été nous. On a mis tout notre historique perso de famille, d'entrepreneur, de machin, de casserole dans 170 mètres carrés. Il y a des fans, on l'a déjà fait. Ils voulaient dormir dans le resto. On leur filait les clés. On dit, vas-y, à la fermeture, tu vois.
Non, mais
vraiment, il y a eu un truc à l'époque des Niçois où Il y avait des papiers dans tous les sens, personne ne savait, personne ne comprenait. Il y avait des attachés de presse qui nous disaient qui est votre attaché de presse.
Alors, moi, pendant deux ans, je recevais à peu près, tous les deux jours, ils m'envoyaient un article de presse sur le resto. Du coup, pour moi, c'était normal.
Ouais, c'était...
Je me suis dit, ah tiens, c'est comme ça que ça se passe quand tu lances un resto.
Alors, ouais, en fait, tu faisais même plus du truc. Enfin, tu savais peut-être pas goûter le.
Non, mais on a une bible comme ça, des articles qui sont sortis sur le resto.
Justement, tout votre réseau, dans la musique, ou parisien, ou journaliste. Ça vous a aussi aidé au départ,
bien sûr,
parce que vous avez activé pour faire venir.
Bah, tu sais, sur la première année au moins, je pense qu'il y a 500 clients qui ont fait 300 personnes tous les soirs pendant un an.
Là, vous avez payé des figurants.
Et puis, quand t'es un peu sudiste et que tu vois un bar à Paris qui s'appelle les Niçois,
ouais.
Non mais là, ça t'a drainé. Déjà, mécaniquement, c'est comme t'ouvres un truc, les Bretons, t'as tous les Bretons de Paris qui se pointent.
Ouais,
donc ça. Là, les Niçois, il y avait des mecs qui disaient, ouais, dans le Niçois, mais attends, moi je suis Niçois, t'es Niçois. Enfin, tu vois, c'est genre.
Même en plus, ça ratissait de Nîmes à Menton, tu vois, t'avais tout le bastion du sud. Et du coup, forcément, c'était chantant, c'était riant, ça se marrait, c'était hyper solaire comme endroit. Tu passais la porte. Ça y est, t'avais une expérience de malade qui commençait, quoi. Quoi qu'il en soit, soit parce que tu te faisais accueillir avec un sourire, soit parce que tu te faisais envoyer chier, tu vois.
Ouais, c'était l'un ou l'autre. Et justement, par rapport à ce positionnement, parce qu'on le voit un peu à Paris, il y a des modes. Comment vous avez fait pour que la mode, elle passe pas? Parce que le risque serait de rester, par exemple, en ce moment, je sais pas, c'est la mode des crêpes, on fait que des crêpes, et puis bah, dans 3 ans, tout le monde en a marre de manger des crêpes. Bon, bah, il faut aussi changer. Comment vous avez fait pour entretenir l'âme du lieu?
Bah, sur le lieu, en fait, ça, pour le coup, c'est toutes les années de restauration où j'ai bossé, où j'ai pris le meilleur de ce que j'ai vu et le meilleur aussi pour les gens qui bossent avec nous. C'est qu'on a fait tous les midis, tous les jours de la semaine, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts qui changeaient tous les jours, toute l'année. Le soir, une carte de tapas simple, donc une quinzaine de plats, pas très cher, abordable, mais que du frais, etc. Et le week-end, une carte brunch avec garderie pour enfants.
Ah.
On a été les premiers à faire une garderie pour enfants dans la cave. Il y avait des animateurs qui venaient. Enfin bref. Donc, en vrai, en posant un concept comme ça, on va mettre des gros mots, en posant un concept comme ça, t'as des chefs, on a eu des chefs incroyables qui ont débarqué avec nous, créativité fabuleuse, et tu plais à différents types de clientèle qui vont chacun retrouver leur moment dans la semaine. Donc le brunch, quoi qu'il en soit, bah un brunch, c'est un brunch.
Tu veux dire, t'as pas la même clientèle le midi que le soir ou que le week-end?
Non, pas du tout.
T'arrives à gérer
ça? Pas du tout, ça n'avait rien à voir.
Et puis, assez rapidement, déjà l'année de lancement, on a fait beaucoup, beaucoup de festivals. On allait faire des pain-bagnades, des salades niçoises à Willow Green. Enfin, tu vois, on faisait tourner le concept les niçois, tu vois, sur tous les festivals. Donc, tu vois, les mecs, c'était vraiment omniprésent chez les gens, puis ça faisait un peu parquer la capillarité, donc c'était niçois, puis après on a eu les Bretons, puis après on a eu un peu tout le monde, et puis machin, donc tu vois, la marque elle a grandi un peu comme ça, et puis on a eu un déclic, c'est qu'on faisait, au lieu de faire des goodies, des t-shirts, des sweatshirts, des conneries ou des beans, en fait, Luc il m'a dit, vas-y, on va mettre notre tapenade dans des petits bocaux, puis on va voir si ça marche. Et c'est comme ça que on a eu notre premier client qui était Colette.
Colette, de vous référencer.
C'était encore très drôle. On avait donc nos petits bocaux là, qu'on faisait au resto de tartinables. En gros, c'était ce qu'on vendait aussi aux clients sur place, tu vois. Donc c'était.
Il partait avec.
À la place de faire des t-shirts, des casquettes à la con, une fois qu'ils vont être lavés 2 fois, ce sera délavé et tu les jetteras. Bah là, t'as un petit pot que tu vas partager encore avec des potes. Et donc, tu vois, tu déplaces le moment.
Ouais, l'expérience, tu la continues aussi chez toi.
Il organisait là, le lundi soir, lui, il organisait un tournoi de pétanque des marques. Donc, on a fait ça pendant 2-3 ans. Le lundi soir, on emmenait 2, 3, 4 marques qui venaient dans la cave, ça jouait à la pétanque. Et donc,
des marques de quoi? De foot?
Des marques de gens qu'on connaissait, de potes, quoi.
Des gens, je sais pas, tu te rappelles de Paris Dernière? Ouais, t'avais une équipe Paris Dernière contre une équipe de Vice.
D'accord.
Et contre une équipe de L, contre une équipe de Colette.
Ok. Ouais,
voilà. Time Out, tous ces gens-là, etc.
Ok.
Et il s'avère que l'équipe de Colette, ils étaient bons à la pétanque. Et donc, 3 fois d'affilée, ils ont gagné le tournoi. Et un jour, Sarah, on lui montre un projet un peu fou qu'on avait en tête, qui était nos petits pots de tapenade, là. Il dit, bah tiens, on va les brander maintenant, on va mettre une étiquette dessus, tu vois. Et on lui montre ça pendant un tournoi de pétanque à l'extérieur. Elle dit, ah putain, c'est chambé, bah, le jour où ça sort, vous me dites, on les met chez moi.
Okay. J'ai bien compris.
D'accord. Très bien.
Parce que Colette, c'était ouais. même un délire à l'époque.
Ah bah oui, non mais
tout le monde voulait l'influence de la pointe de l'iPhone.
C'est-à-dire que les paires de Nike, les iPod, tu vois, c'était quand tu faisais un lancement chez Colette, t'étais le roi du monde. Chalumet qui est compagnie, tu vois.
Donc elle nous dit ça. Bah nous, d'un coup, on se met une pression monumentale. Ouais. On débarque 3-4 mois après chez elle, donc chez Colette, Kini et moi, avec... moi, j'avais donc bossé les recettes dans la cuisine pour faire un truc un peu optimisé, des trucs... Avec des petits pots en verre, tu sais, à clapper, avec les 5-6 recettes, on a des trucs. Lui, il avait pris une belle lappe en lin, tu sais, jaune, qui pose sur la table de chez Colette, un petit olivier. On bosse le truc, quoi. On arrive, etc., on ouvre les petits pots, elle dit, bon, alors, qu'est-ce que vous me faites goûter? Goûter les petits pots, comme ça, elle nous regarde, elle fait, non, mais, ok, c'est chambé, c'est très bon. Et on m'a jamais présenté une marque comme ça. J'en venais avec un produit fini et après on verra.
Donc, on m'a dit, allez, revenez. Quand on s'est prêt, on vite, et puis c'est bon. Voilà, donc, là, on s'est grouillé autant de dire pour faire des étiquettes.
Voilà, ouais. On a finalisé le truc. Et en fait, on a fait un lancement chez Colette le 21 mars, hein, je crois.
Un an pile après le resto.
Ouais, 21 mars 2015, on lance chez Colette avec, dans le sous-sol, on a construit des terrains de pétanque. Pastis de partout, tapenade, etc.
Vous aviez aussi événementialisé ouais, le lancement. Ouais.
Bah, ouais. Toujours, tu vois, enfin, le mot, c'est créer des moments. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas arrivé avec le pot de tapenade dans le rayon chez Colette en faisant une photo. Et non, nous, on sent obligé de se déplacer. T'as 200... avec l'armada, quoi.
T'as 200 mecs. On avait même pris chez Colette, archi drôle, ça c'est encore lui. On avait même pris le mec qui vient vendre les roses le soir au resto, qu'on adore, qui venait, un truc, on lui avait acheté 100 roses pour qu'il vienne avec nous chez Colette et qu'il les offre aux gens. Et les gens, ils le regardaient, ils disaient, non, merci, ils disaient, c'est gratuit.
Okay. Donc au sous-sol, t'avais le terrain de pétanque. Le petit Pakistanais qui distribue des fleurs aux Japonais, ouais. Et les Japonais qui jouent à la pétanque. Et là, il nous dit, mais en fait, vous êtes dingue, vous deux.
Ouais,
mais non, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va bien se passer.
Ah, mais d'un côté, en fait, vous vendez pas... En fait, vous vendez pas le fait de manger, vous vendez l'expérience. Et c'est ça qu'on vient chercher. Donc après, ça se traduit par des produits, par un lieu, par une ambiance, etc. Donc c'est hyper cohérent ce que vous avez fait, en fait, de dire on va événementialiser le lancement.
On vend presque les moments qui te manquent tout au long de l'année, tu vois ce que je veux dire? C'est les vacances, c'est ce moment où tu te retrouves avec tous les potes, la table.
C'est que 5 semaines dans l'année. C'est,
nous, c'est 12 mois dans l'année.
Nous, c'est ce qu'on cherche à avoir, donc bon, voilà.
Ça marche. Ok. Donc, c'est comme ça que vous vous rencontrez, c'est comme ça que vous vous lancez.
Ouais.
Donc, vous activez le réseau au départ et donc vous avez la première année, vous faites complet, voire surcomplet, on va dire. Vous lancez après... votre première marque. Alors, c'est quoi du coup? C'est l'Enisoi directement?
Ouais, exactement.
On lance l'Enisoi chez Colette.
Ok.
Là,
et là, comment vous.
Là, franchement, en lançant, en disant bon, sympa, on a fait un bon coup avec Colette. Jamais
mais
de
pour
la vie.
Mais pour te dire quel niveau d'interprétation on avait du truc, c'est on avait fait 4 petits pots. Une bouteille de rosée de pétanque, et après on avait 3 sweatshirts, une bougie, des boules de pétanque, tu vois, il y avait...
Ouais.
C'était juste, on lançait la marque Lénissois, quoi, c'était les goodies, on faisait parler du resto.
D'accord.
Mais, vu qu'on a fait ça chez Colette, bah le lendemain...
Et Sarah de nous dire, parce que tu vois, Sarah, c'est la fille de Colette.
Oui.
Donc Sarah de nous dire, vous allez voir, je pense que, en général, enfin, j'ai jamais lancé de marque de food, je pense que, tu vois, humblement, je pense que vous allez avoir des coups de téléphone. Moi, je mets le téléphone comme ça, j'attends, tu vois, je suis bon. Pas de téléphone, pas de coup de téléphone. Premier mail. Bonjour, c'est la galerie Lafayette, on vous a vu chez Colette, est-ce qu'on peut se voir?
Luc,
attends, on nous passe une commande. Attends, prépare le scooter. Donc, on fait la galerie Lafayette. Après, la grande épicerie. Bon, après, on a quand même passé 2-3 coups de téléphone, tu vois.
Mmh, mais, oui, bien sûr.
Vas-y, on commence à avoir des commandes et tout, machin.
Et c'est pas une vanne, on livrait avec nos scouts.
On livre en scoot.
Ouais, depuis le resto, le scooter.
Parce qu'en plus, Colette, t'as une énorme visibilité.
Ouais.
Les rayons, ils sont petits. Donc, elle te commande un colis.
Ouais.
Bon, donc ça rentrait dans le case du scooter. On livre un colis, on livre une bouteille, machin. Grande épicerie, on mettait 2 colis. Donc, tu vois, on commence à lancer l'histoire. Et puis, sentant que... Bon, parce qu'on a quand même un peu des intuitions, tu vois. On sent que le truc pourrait prendre. On s'inscrit au salon de l'épicerie fine. À Paris, dans le Porte de Versailles.
En septembre.
Donc là, on prend des gros risques d'entrepreneur.
Et là, vous aviez vendu combien de
ah, j'ai plus, mais...
8
ou... Non, mais on avait amorcé un potentiel deuxième business, tu vois.
Oh.
Mais en tâtonnant.
Combien, j'en sais rien, mais c'était...
Et tu vois, alors une question aussi avant qu'on poursuive, parce que tu vas revenir sur le salon, mais entre... Tu as dit tout à l'heure aussi, et je reviens sur plutôt le modèle économique. Vous avez dit, on va passer un bon moment. Donc, si on passe un bon moment, les gens restent aussi potentiellement longtemps. Alors, exactement. Est-ce qu'ils consomment, ils ne consomment pas, ça, c'est un autre sujet. Mais j'imagine que quand tu passes un bon moment, tu es plus enclin à consommer davantage. Mais comment tu fais pour avoir des produits frais, pas de conserve, etc., pour avoir des chefs, pour avoir fait ce niveau de qualité et maintenir des prix accessibles où tu disais, enfin des prix sympas.
Il y avait vraiment du monde. Hein.
Ouais.
Donc, mais... et puis les produits frais, c'est si tu les travailles et machin, ça coûte pas beaucoup plus cher que acheter la boîte de conserve et compagnie.
Ok.
Donc tu vois, dans
vous,
ce
il y a aussi un truc.
Non, mais il y a aussi un truc important, c'est que lui et moi, on travaillait 190 heures semaine.
Ouais. Non, mais là, on rigole, mais on travaille quand même.
Moi, c'était la première fois que je voyais un mec qui bossait plus que moi. Mmh. Enfin, moi, j'arrivais au resto, il était 7h30, 8h du mat, commençait à lancer le service. Mmh. Je partais le soir, la veille, 3h30 du mat, quelque chose comme ça. Il m'envoyait des messages après que je me sois couché et le matin avant que je me réveille. Mmh. Et moi, j'étais un peu sur le cul parce que.
C'est la course à qui aller.
Ouais, puis... Non, mais en fait, on était porté par ce truc. Ouais, je te disais, la presse, les gens, le remplissage, tu vois ton cahier de Reza. On avait eu à l'époque Merci Alfred. Ouais. Qui nous avait fait un post sur le, au tout début de Merci Alfred, on avait pris 6 mois de Reza d'un coup. Ouais. Pas compris ce qui se passait. En plus, c'était pas système de Reza en ligne. Hein.
Oui, c'était
téléphone, agenda. Hein.
Donc le restaurant, il se portait bien. Le développement des premiers produits d'épicerie, on se disait en rigolant, c'est le Ricard du soir qui paye quand même, tu vois, parce qu'il y avait quand même un peu de BFR, fallait acheter des produits, on a payé une agence pour faire la DA. Ouais. Donc on regardait le resto, putain, là on fait une bonne soirée, c'est ça qui va financer l'épicerie. Et on travaillait au resto, à 19h on pliait les ordis, on faisait le resto, enfin tu vois, on faisait les deux en même temps. Et on prend ce salon, on prend un stand sur le salon de donc l'épicerie fine, on était hyper impressionnés, on était tous les deux, il y a 10 ans, on était un tout petit peu plus jeunes. Et donc on prend le salon, tous les deux, porte de Versailles, on avait... pas beaucoup dormi.
C'était notre premier salon.
Premier salon, je sais même pas ce que c'était qu'un Monoprix, quoi. Tu vois, Carrefour, Franprix, ouais. Je savais pas trop.
T'avais quoi, genre 6 mètres carrés?
Ouais, tu vois, t'avais deux pans de mur. On avait tapissé ça.
Comme d'habitude, les cagettes. On a repris des cagettes partout. Son père, il nous avait livré une tonne de fruits et légumes. On avait fait un bordel.
Il y en avait plein, là. J'étais au salon du Made in France il y a quelques mois. Il y en avait plein, des cagettes partout.
À l'époque, il n'y en avait pas.
T'avais Rungis, t'avais un restaurant sur un stand où tout le monde avait blanc, stand blanc. Un peu en mode commercial, un peu classique, tu vois.
Avec les kakémonos, les trucs.
Donc vous êtes différenciés.
Et nous, en fait, mais sans trop faire gaffe, tu vois, on s'est pas dit, on va foutre le bordel. Donc, bon, il se trouve que on arrive tous les deux, on dort pas beaucoup, on anime le stand, on fout le bordel. Tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur qui vient nous voir, mais hyper discrètement, parce que c'était un peu un gros mot. Il dit bonjour, je peux vous déranger?
Toi, avec ton tact habituel, moi, tu lui réponds.
J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Enfin, vas-y, parle-moi. Il dit, voilà, je suis acheteur chez Monoprix. Ah bah très bien, asseyez-vous. Je peux m'asseoir? Bah bien sûr, allez, installez-vous, on va parler, qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, vous êtes une star, je te jure, il nous sort un papier.
L'écran de son ordi.
L'écran de son ordi, voilà, regardez, mon mail. Vous êtes sur ma to-do list des marques qu'il faut que je visite sur le stand. Est-ce qu'on peut se parler? Bah, j'y vis, assieds-toi, et puis de là, je vais pas te faire toutes les étapes, on s'en fout, mais de un an après Colette, après deux, trois petits ajustements, tu vois, des trucs, on s'est retrouvé dans une centaine de Monoprix.
Mmh. 2 ans après, pile poil, le temps de signer.
Un an. on s'est collé, tu vois. Colette, on savait pas trop. Monoprix, on dit, mais bien sûr, on est des spécialistes de l'épicerie fine. Regardez, on a un stand et tout ça, machin. J'ai le bleu de travail, tu vois. On est hyper professionnel. Les produits sont qualité et tout. Et donc, on lance chez Monoprix dans 100 points de vente.
Et alors, à ce moment-là, vous êtes à combien de pots? Ben, comment vous répartissez? Vous avez une plus grande cuisine, vous pouvez produire plus pour faire des pots.
À partir de là, on est obligé de sous-traiter. Ouais. Donc là, on trouve un artisan dans le sud de la France. Mmh. Moi, je fais les recettes au resto, j'envoie des bocaux de 2 kilos, le mec les retraite de manière industrielle pour arriver justement à équilibrer les recettes, etc. Toujours bosser. L'approche, c'est tout se passe avant tout dans une cuisine et ensuite, ça passe sur de l'industrie. C'est pas de l'industrie qui génère du produit.
Oui.
C'est la diff chez nous. Donc, on trouve notre petit mec en Provence qui nous fait nos premiers petits pots. Mais on était complètement... Enfin, c'est Olivier et moi qui nous sommes dit, on va faire de l'épicerie fine. Derrière, il y a le mec de Monoprix. OK, on va faire de la GMS. On arrive avec un pot qui est trop gros, trop cher, parce que chez Colette, donc Prestige, etc. On recadre le truc, on passe en 80 grammes avec une petite capsule blanche. Bref, il y a déjà une première réorientation où on comprend qu'on est un peu décorrélé par rapport au modèle grande distribution. Mais c'est des métiers qu'on apprend de A à Z. pour le coup, on découvre.
Mais t'apprends par l'expérience.
Ah ouais.
Et puis c'était pas, si tu veux, c'est pas un plan qui était écrit.
Oui, c'était.
Tu vois, c'est pas genre on a fait une école de commerce, voilà, on va faire un truc, ça s'appelle une histoire, on va arriver chez Monoprix. C'est arrivé. Mais je pense, après coup, que c'est aussi pour ça que ça a marché. Tu vois, c'est que Colette, elle a trouvé ça super, la grande épicerie super, Monoprix super. Ils auraient vu.
Oui, parce que si ça avait été un concept, peut-être écrit. Ah oui. Ça aurait peut-être sonné un peu moins
Et puis là, ce qui est naturel, quoi.
Et là, ce que Monoprix, ce qu'on pense, et ce qu'on ressent, ce que nos clients nous disent, ce qu'ils achètent, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas des pots en fait. Mm. Ils achètent pas des pots. Et nous, ce qu'on vend, c'est pas tellement des pots. Ok, c'est un pot, mais c'est pas ça qu'on vend. Mm. Et depuis le début, parce qu'on a fait ce resto, parce qu'on a fait beaucoup de trucs avant d'arriver à ça, on pense que c'est ça qui a fait que ça. Ben, tu vois, ça a fonctionné, qu'il y a eu de l'empathie sur la marque, sur le nom, sur les produits, sur nous deux, de voir deux mecs qui sont restaurateurs, qui vont devenir un peu épiciers. Tu vois, c'était un modèle un peu chelou. Et je pense que, tu vois, ça a créé aussi une espèce de différenciation, rupture ou je sais pas quoi, pour qu'ils nous disent, bah, en fait, ça nous intéresse.
Et parce que là, quand tu arrives avec Monoprix, Monoprix, tu as, j'imagine, un contrat où quand tu es référencé, tu dois t'engager sur des quantités, sur une qualité, sur des délais de livraison. Enfin, je veux dire, là, après, vous rentrez dans un autre game quelque part.
Alors, oui, mais on n'apprécie pas du tout le game à la valeur du game de la grande distribution. C'est-à-dire que nous, en fait, on a cette opportunité qui arrive sur le salon là, dont on parlait. On se dit, OK, go, on va lancer nos petits produits là-bas. Mais en vrai, nous, notre métier à la base, c'est restaurateur. On a notre resto qui tourne, on est en train d'en ouvrir un deuxième. On a des projets à droite à gauche sur la restauration. Donc en vrai, on passe un petit peu de temps sur l'épicerie, mais ce n'est pas le focus principal du tout. Donc en vrai de vrai, ce qui est bien, c'est que la marque a fonctionné chez Monoprix. Donc l'année d'après, ils nous ont dit, bon, bah, ça a marché, on va vous mettre une deuxième ligne. On était super contents, mais entre-temps, on bossait toujours à côté sur les restos, sur les ouvertures, sur les trucs. L'année d'après, bon, bah, ça a marché, donc on vous sort de ce petit rayon et on vous bascule sur, je sais plus combien de magasins, 200 magasins, je crois.
Assez vite, on arrivait à 200, tu vois, on arrivait full park à 200, 215, 220 Monoprix.
Mais c'est toujours pareil, on n'est pas du tout staffé. Et alors, donc, qui est la boîte créée par Armando, son père. Et alors, notre holding, elle n'est pas produit de grande distribution, elle n'est pas structurée pour faire de la grande distribution. Et alors, c'est une boîte qui fait restaurant les Niçois numéro 1, restaurant numéro 2, événementiel et un peu d'épicerie, qui est presque toujours un segment goodies. Donc en gros, on arrive en 2019, on est 50 au temps fort de la saison, au temps fort des saisons, parce qu'on fait des événements pour 1664, des trucs gigantesques, on vraiment pilote des 40, 50, 60 mecs pendant 2-3 semaines, plus on a 1, 2, 3, 4 établissements qui tournent. On est une boîte de la restauration et de l'événementiel. Avec une toute petite jambette épicerie fine.
Alors, c'est intéressant parce que là, tu parles de holding, de construction, différentes activités. Donc, vous avez différentes verticales. Tu me fais une transition parfaite pour la deuxième partie, qui est comment vous avez fait pour lancer plusieurs marques, pour vous organiser aussi autour de tout ça. Parce que, comme tu dis, on passe dans une autre dimension. Vous, à la base, c'est plutôt la restauration qui vous intéresse.
Ouais.
Et pour autant, on ne peut pas mettre de côté, quand on a des contrats avec Monoprix ou 200 Monoprix, bon, tu peux pas mettre de côté ça, il faut structurer.
Et ça nous plaît.
Ça vous plaît, vous avez d'autres idées en plus.
Ouais.
Voilà. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous prenez quelqu'un qui vient faire une activité en particulier? Est-ce que, non, c'est vous, vous gérez à deux têtes l'ensemble des activités? Voilà. Comment vous organisez? Est-ce que autre question, est-ce que vous basez sur les forces de chacun? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites, bon, bah, ok, on a identifié que toi, t'es plus ça, mais il faudrait que l'autre soit un peu plus comme ci ou comme ça pour aider?
Alors, on a fait... C'est une excellente question, monsieur.
Bravo. Bien, merci beaucoup, j'ai travaillé depuis longtemps.
Prends une petite cacahuète, tiens.
Allez,
prends une petite cacahuète.
T'as le droit ?
Ouais, vas-y. C'est 2019 où on commence un peu à se découper, c'est-à-dire Luc gère plus le resto, le staff, les RH et tout, et moi un peu plus l'épicerie. D'accord. C'est à ce moment-là aussi où il y a...
C'est une marque que je connais pas.
Non, c'est à ce moment-là où on rentre aussi chez Carrefour. Tu vois, on avait les Monoprix, on a gardé tous nos comptes clients, tous les clients historiques. Et Carrefour commence à nous passer des commandes. C'est à ce moment-là où on se dit, OK, en fait, il va falloir peut-être vraiment penser à s'organiser parce qu'on a des commandes régulières, il faut aller dans les magasins. Enfin, tu vois, on commence à structurer un peu cette verticale, on va dire. on débauche quelqu'un de chez Fauchon qui devient un peu la directrice commerciale un peu de l'entité épicerie. C'est là où on rentre chez Carrefour, on commence à se staffer un peu.
Oui, donc vous staffez.
Donc voilà, on commence à organiser un peu.
Derrière, il y a une équipe.
Non, bien entendu.
On commence à un peu organiser la partie épicerie. On prend un mec qui était chez Ferrero, Antoine, qui visitait tous les magasins pour Ferrero. On l'embauche sur les Niçois. Et on dit, bah maintenant, à toi de jouer sur les Niçois et commence à visiter tous les magasins, machin. Donc on commence à structurer un peu ce business.
Et comment ces profils, je t'interromps, mais comment ces profils, vous allez les chercher? Parce que derrière, il y a aussi un coût, enfin, il y a un salaire, c'est des gens qui ont des expériences. Enfin, là, vous parlez de Ferrero, Fauchon, c'est des gens qui avaient des
beaux postes. Ils étaient très jeunes. On était jeunes autant que nous. Sur les recrutements, Héloïse, qui était sur la partie compte-clé à l'époque, c'était une amie. Donc, qui nous a rejoint, qui a quitté Fauchon et qui est rentré avec nous et qui était très axé épicerie fine. Et Antoine, pour le coup, c'est à l'époque on avait donc une DRH. Parce que quand t'as 5 bouclards en restauration, c'est beaucoup de turnover, exactement, donc c'est beaucoup de recrutement. Donc elle, derrière, elle a cherché Antoine qu'elle a trouvé de chez Ferrero et qui nous a rejoint.
Et parce que. Il y avait quand même un peu dans le contexte, mais il y avait quand même une petite fame, un truc un peu cool sur les Niçois.
Ouais.
Et pareil, qui attirait aussi un peu, tu vois. Donc il y avait une espèce de recrutement un peu, pas malgré nous, tu vois, parce que ça arrivait un peu. Ah putain, j'ai vu les Niçois. Le mec de Ferrero, il voyait un truc les Niçois. Enfin, tu vois, ce qu'on avait fait un peu sur le resto, on commençait à le faire sur l'épicerie. Donc ça intriguait. Donc on avait un peu d'entrant. Donc entre Héloïse, qui connaissait ce business, Antoine qui connaissait ce business, on a commencé un peu à structurer l'équipe. À ce moment-là, on a eu Carrefour qui est rentré dans la boucle.
Toi qui se concentrais.
Moi qui commençais à être, plus au bar, mais concentré un peu sur l'épicerie. Donc ça dégageait aussi un peu une énergie un peu, tu vois, différente, positive, machin, tout ça. Donc on commence à rentrer chez Carrefour et tout ça. Jusqu'au. Attends, je vais te dire, c'est une date importante. C'est connu, hein, c'est la date du Covid.
Bah, c'est.
Ouais, 18 mars. 18 mars 2020.
Ouais.
Là, changement d'ambiance.
Oui.
18 mars.
Et là, le lieu. Bon, fermez les portes.
Bah là, on a 5 lieux à l'époque.
Le lieu, les lieux, machin. Confinement total. Donc, la planète.
À l'arrêt.
Tout est bouclé, tout est fermé. Sauf. Il faut manger. Sauf la grande distribution.
Ok. Donc, heureusement, vous avez eu la grande distri avant.
Donc, nous, on se retrouve avec des produits en grande distribution. Personne ne ferme. Donc, le seul chiffre d'affaires, on s'appelait, parce qu'on était un peu séparés.
En confinement.
Tout le monde était en confinement. On s'appelle, on regardait les chiffres. Bon, les Niçois, le restaurant, 0. Les Niçois, l'épicerie, 2, 4, 6. Enfin, tu vois, donc, ça continuait à faire de la croissance, un peu malgré nous, sur un réseau qui n'était pas fermé, en fait. Et de là, ça a duré 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, les affaires... On s'est dit, en fait, on va définitivement pivoter notre business. On va, en plus de ça, il y a quand même vie familiale, enfants, truc, machin, tu vois. Donc, et puis, l'idée aussi de changer un peu de vie, tu vois, de plus être restaurateur, c'était, tu vois, c'est cool, hein, mais de changer aussi un peu de modèle perso.
C'est aussi la vision décalée, tu sais.
D'associer, tu vois, et se dire, enfin, tu vois, de se dire, ok, à deux sur un truc, on est plus efficace que seul et en étant séparé. Et en fait, on va se concentrer à deux sur l'épicerie.
Okay.
Et c'est comme ça que...
Dans les restos, après, comment vous avez fait?
Bah là, on a tout fermé.
Mais après, quand ça a rouvert, vous êtes revenu après dans les restos? Vous avez
tout fermé.
Fermé.
On a fermé l'intégralité de nos restos, sauf le premier, l'historique, les Niçois du 11e, qu'on a gardé, mais qu'on a laissé fermer pendant 2 ans.
D'accord. Vous n'aviez pas fait la vente à emporter? Parce que tout ça, c'était possible.
On n'avait pas fait de vente à emporter parce que nous, justement, le truc, c'est... C'est le moment. Exactement.
Créer un moment, tu vois. Donc, quand on nous a dit, et t'avais plein de sujets à la télé, le restaurateur qui vient pour faire des ventes à emporter avec sa barquette, il dit, en fait, c'est la dépression. C'est impossible de faire ça.
En plus, on le fait déjà, mais dans les magasins presque.
Tu vois. Donc, on s'est dit, impossible de faire ça. Donc, on a, post-Covid, fermé, vendu, sorti tous les restaurants, et on a gardé les Niçois 11e. Et on s'est dit, vas-y, en fait, on va se concentrer notre énergie sur la partie épicerie.
D'accord.
C'est comme ça qu'on a changé de modèle.
Ok, donc c'est finalement le Covid qui a été ce déclencheur qui vous a fait passer, pour revenir du coup sur la deuxième partie de l'épisode, sur ce côté développer plusieurs marques, distribuer à Monoprix ou ailleurs, Et aussi, bah, finalement, lancer avec José Garcia cette nouvelle marque et idée.
Ouais, c'est un poil plus complet. En gros, Covid arrive, on prend rapidement la décision de changer de rythme. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, il faut s'en rappeler aussi.
Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est fermé, mais il n'y a pas de date.
Ouais, exactement. Oui, y a pas de date. Donc, on prend rapidement la décision quand même de réorienter sur l'épicerie. Lui, il était quand même pas mal structuré avec l'équipe à l'époque. Donc, c'est vrai que moi, mes inputs, à part faire des produits sur la partie épicerie, j'avais pas tant de boulot que ça. Donc, bah, je me mets à écrire le livre Les Niçois, ouais, avec Flammarion.
Celui-là ?
Voilà, exactement.
Bonne les cacahuètes ?
Oui, oui, très bonne.
Merci.
Merci, monsieur.
Donc, on fait le bouquin, ça me prend pas mal de temps.
Ça, c'est tes recettes ?
C'est les recettes de la famille, des potes, des amis qui sont à l'intérieur du bouquin, d'ailleurs, tous. Enfin, bref, il y a ma grand-mère, il y a tout le monde. Il y a même Armando, son papa, et tout le monde. Ouais, exactement.
Fafa.
Bah, tiens, regarde la page d'avant, si tu veux, tu vas voir ça. Ma grand-mère, enfin bref, voilà, donc il y a tous les gens importants, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, c'est mon grand-père qui faisait les trucs en fer forgé, bref, tu vois l'histoire. Et en gros, au moment de la sortie de ce livre...
On se retrouve chez Flammarion.
Voilà, pour la session, tu sais,
on a une trentaine de livres.
Tu dis j'écris le livre, mais entre écrire le livre et trouver un éditeur, le faire publier.
Non, c'est Kini qui a appelé Flammarion, il leur a dit oh, on a une super idée, c'est Les Niçois, ça s'appelle Le Sud, c'est mieux. Ah ouais, super.
Mais tu connaissais déjà, c'était du réseau ou...
Non, alors moi j'ai. Je suis...
Il est doué au téléphone.
Non, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on te le raconte, tu dis que la vie est facile. Même si. On rentre Carrefour,
c'est simple comme ça.
On veut faire un livre, on appelle Flammarion, voilà. On rentre chez Colette. Tu vois, la vie est belle. Bon. Ça nécessite quand même deux, trois petits...
Justement.
Je ne sais pas comment dire, tu vois, mais disons que quand on a une idée, tu vois, j'aime bien la tenir, et si c'est pas, tant que ce n'est pas fait, ça me pose des problèmes. Okay. Donc là, on s'est dit, vas-y, on va faire pendant le confinement.
Les éditeurs.
Non, mais tu vois, on essaie de trouver les bons arguments pour faire la bonne vente, pour que tout le monde soit content. Et donc pendant le confinement, donc on se dit ok, on pivote, on n'avait pas grand chose à foutre, on se dit ok, on va écrire le livre, la Bible des Niçois, donc c'est ce qu'on présente à Flammarion. Bref, on sort le livre, machin, on se retrouve chez Flammarion, quand même pas déconnant, tu vois. Donc on se retrouve chez Flammarion et on envoie 30 livres, tu sais, on envoie 30 livres aux copains, à la presse.
Des exemplaires machin, presse dédicacés, je sais pas trop quoi.
Et on se retrouve là-bas et on est dans le petit bureau avec Luc, pièce comme ça. Il nous reste un livre sur l'histoire, elle est vraie. Il nous reste un livre.
Ça va paraître faux, mais tout est vrai.
Mais c'est vrai,
tout est vrai.
Il nous reste un livre.
Je vais vous dire comment ça sonne, vas-y.
Il nous reste un livre. Je ne sais pas d'où ça m'est venu.
Donc c'est moi qui écris sur les livres.
Oui, c'est parce que moi je ne sais pas écrire.
Lui, il écrit mal.
Donc il nous reste un livre. Il me dit bon, à qui on envoie ? Ben, j'ai un peu. Attends, j'ai peut-être une idée. On envoie une bouteille à la mer, tu vois. Et je regarde sur un truc, sur la Wikipédia. Je dis attends, il est né à Nice. Il s'appelle La Charrière, notre resto, Les Niçois rue La Charrière. On lui fait un petit mot, je sais plus ce qu'on a écrit.
Cher Marc, très cher Marc, nous avons deux points communs. Nous sommes tous les deux niçois et un affect très particulier avec le nom La Charrière. Toi, c'est ton nom, nous, c'est la rue de notre premier restaurant. Voici mon numéro, j'ai mon numéro. Au plaisir de te rencontrer, Luc. Et donc, c'était Marc Ladré de La Charrière.
Mais sans aucune arrière-pensée, mais rien.
Aucune.
Juste faire plaisir. Créer un moment, tu vois. Genre, on veut créer un moment. Sachant que le livre, on l'envoie quand même.
Vous pas aller chercher n'importe qui, parce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs et auditrices ce que sont nos activités.
Alors, c'est un jeune homme de 80 ans, tu vois. Ouais. C'est pas le jeune influenceur, start-upper, oui. Je sais pas quoi. Et c'est quand même
un track record plutôt sympa.
Qui est important quand même dans le business, qui a créé Finch, qui a revendu Finch, qui a pas mal de sociétés, qui a la tête de son, je sais pas, empire ou machin, qui est seul à 100%. Tu vois, qui a une vision un peu de l'indépendance.
Un groupe avec de multiples activités.
Un pied dans la musique, du digital, etc., etc.
Et moi, c'est un oncle dont j'avais entendu parler à l'époque dans la musique. Tu vois, parce qu'il était... Il était, via ses différentes sociétés, producteur d'artistes de tournée. Donc, c'est un nom que j'avais en tête. Et on envoie ce livre dans un joli coffret avec tous les produits lénissants, en disant, voilà, avec le 06, on envoie une bouteille à la mer. Nous, c'est genre, on oublie le truc et tout.
Bon, bah, deux semaines après, je reçois un coup de fil. Non, un SMS. Cher Luc, avec plaisir pour vous rencontrer. Quelle est l'adresse de votre restaurant? Enfin, non, on se rejoint quand à votre restaurant, Monsieur Lacharrière.
Bon, et votre histoire m'intéresse. Voyons-nous.
Donc,
tu vois, c'est sympa quand même.
On prépare notre petit restaurant. On arrive et puis là, il y a un monsieur qui arrive avec son petit chien.
Trop sympa.
Sa bagnole.
Genre, trop sympa. Genre,
qui arrive et qui vient nous voir. Nous, on est assis dehors sur la terrasse, qui nous regarde. Dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Et on lui répond, bah rien du tout, on s'est dit que c'était marrant de vous rencontrer.
Rien.
Rien. Et donc là, on s'assoit.
Je sais même pas s'il était venu rue Lacharrière.
Ouais.
Tu vois
on se prend.
Il se sent à la maison, évidemment.
C'est ça, il prend une salade niçoise, il est à la cool, on discute, on rigole, on lui raconte notre vie. Nous, à un moment, on était en sortie de Covid. Donc c'était.
Il avait juste été vous, en fait.
Exactement, 100%. Là, pour le coup, là, c'était du grand nous. Rencontrer Marc Adré de Lacharrière sans savoir ce qu'on veut lui demander.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, t'as cette occasion que beaucoup de gens attendent ou aimeraient avoir. Vous, il arrive et...
Non, bah, juste... Il est au resto, donc on mange une salade niçoise.
Qu'il adore.
Qu'il adore, qu'il trouve super. Ils nous ont demandé une à emporter pour ramener à sa femme le soir. Trop sympa, quoi. Et là, donc, il nous dit qu'est-ce que vous me voulez, etc. On lui raconte juste, nous, ce qu'on fait avec les Niçois. Donc, on a commencé un peu de resto, que maintenant, on fait des produits. Il nous dit, OK, c'est bien. Et nous, là, on sortait de Covid. Donc, on avait quand même craché toute une partie restauration. Oui. On ne s'était pas payé pendant à peu près un an et demi, deux ans,
Vous avez vendu les restos, mais vous avez...
On a perdu de l'argent, on a déposé des bilans. Ça a été une période qui a été hyper dure. Et là, heureusement, l'association, je le remets, je te le dirai qu'une seule fois dans la vie, mais l'association, c'est important parce que bah, quand on a un qui flanche, il y a toujours l'autre pour le remonter un peu. J'ai plus flanché que lui, mais il a été là. On arrive à ce moment-là où on est en train de rencontrer un peu des fonds d'investissement. On a commencé un peu à faire ce jeu-là parce que on est forcé de lever des fonds pour développer l'épicerie.
Ouais.
C'est ça.
Parce qu'on avait... Enfin, on avait compris qu'il fallait vraiment pivoter. Et pour pivoter, pour avoir un dossier un peu sérieux et crédible, il fallait tout liquider, garder un spot, les Niçois, et se concentrer sur un modèle d'épicerie.
Ouais. Exactement. L'épicerie,
donc ça, dans cette vision-là, on s'est dit, bah, OK, on va être un peu moins, entre guillemets, un peu moins bordélique. Et tu vois, on cleanait les restos avec, OK, on fait l'épicerie, et en plus, ça marche un peu. Donc on était en train de faire le tour un peu, tu vois, des investisseurs et tout. Déprimant par ailleurs. Mais...
Ouais, pas une bonne expérience pour vous.
Pas du tout, notre univers.
Oui, parce que après, c'est plus formel, et c'est sur des chiffres, c'est.
Voilà, c'est ça.
Peut-être moins.
Bref, c'était moins humain. Nous, on aime les trucs vivants, là, c'était pas vivant. Et on était en train d'avancer, plus ou moins, avec un deal qui était pas un bon deal. On n'était pas très à l'aise, ni Olivier, ni moi, avec ce truc-là. Mais on se disait pourquoi pas, ça peut nous aider à développer l'épicerie. Hein. Et on raconte ça à Marc, qui est à table au resto avec sa salade niçoise et son petit chien. Et, nous, et qui nous dit
j'y crois pas.
Les mecs,
il nous dit
votre
les gars,
truc.
Vous le dites, je le sens pas.
Vous allez lui poser 2-3 questions à lui. Si vous voyez que ça tortille un peu du cul, vous lui dites, vous lui dites non. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait capoter ce truc-là. Et là, on arrive.
On fait capoter et. On attend, on donne pas de nouvelles à Marc.
On donne plus de nouvelles, et là on arrive au mois de mai.
Attends, en attendant, enfin pendant ce temps-là, pendant l'été, c'est là qu'on lance ça.
C'est ça.
Ouais. Le fameux José Garcia.
Deuxième confinement.
Mm-hmm. Oui. Deuxième carrière.
Deuxième confinement.
Voilà. Deuxième confinement. J'ai un de mes potes, un de mes amis qui s'appelle Gabriel Gauthier, qui m'appelle. On était à Arles. En confinement à côté, qui m'appelle et qui me dit « Putain, j'ai une idée chambée, c'est le Rosé Garcia, mais je trouve personne de mobile, de pouvoir, qui pourrait jouer un peu avec la marque, qui pourrait faire vivre le truc avec José, etc. Les autres domaines, c'est des cons, ils sont chiants, je sais pas trop quoi. Est-ce que tu serais capable, toi, de faire un truc ?» Ouais. Nous, ça va, moi j'ai été biberonné à José Garcia quand j'étais gamin, tu vois, sur les plateaux,
vidéos,
etc.
Les
voilà.
Donc, tiens, l'occasion de peut-être de créer un moment sympa voilà. Autour du vin.
Tiens, je pense qu'on peut rigoler là.
C'est clair.
Donc il me dit, bah écoute, si tu te sens, je t'organise un visio avec José. Donc on est en confinement.
Confinement, bien sûr.
Confinement, et mon pote Gabriel qui veut faire un appel, un visio, et donc je me retrouve en visio. Avec José Garcia et mon pote Gabriel qui nous fait l'intro. Et José qui nous dit « Ah bah la vanne, on me l'a faite 10 fois, mais quelqu'un avec les couilles de le lancer.
Ouais, il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu encore.
C'est étonnant d'ailleurs.
Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Arles. Moi, je suis allé voir les gens avec qui on faisait déjà le rosé de pétanque à l'époque, qui sont des gens du domaine de Monfrin, château de Monfrin, à Costières de Nîmes, donc juste à côté, c'est des voisins. Ils travaillent qu'en bio, ils travaillent hyper bien, ils font que du rosé, de l'huile d'olive, bref, c'est des gens chambés. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, je vais lancer avec José Garcia le rosé Garcia.
Attention, on est au mois de juin.
Ouais. Mmh. Il me faut un bête de jus frais. Envoie-moi 3-4 assemblages cool que tu peux me faire, etc. Je les fais goûter, je vais chez José, je les fais goûter. Et si ça marche, on lance, on fait 5000 bouteilles pour rigoler, quoi. Donc, il me donne ça. Je prends le train, je me fais un... Comment ça s'appelle, là, les faux... les dérogations, c'est ce qu'il fallait pour faire le train, là. Je me fais une dérogation, là, sur mon petit iPad, etc., de déplacement. Je prends... J'ai mes quatre bouteilles, je prends le train, je monte à Paris, je vais chez José Garcia, dans le 16e.
Tu prends des produits béninois pour dire... On est quand même toujours dans le moment.
Quand même,
Exactement. José me reçoit... J'ai rarement autant ri que la première fois que je l'ai rencontré. En vrai, le mec est trop sympa, enfin... Tu vois,
j'imagine,
il t'accueille à bras ouverts, etc. Je débouche les bouteilles, on goûte le truc. Putain, mais c'est chambé, en plus tu me dis qu'il est bio, blablabla. Donc ça rigole. Je dis, ok, bon, bah, si on est d'accord, bah, on va organiser encore un autre moment de lancement où on prend un petit vélo cargo, là. José, on loue 30 Vélib, on part du resto et on va, c'est quoi, c'est Place des Victoires, ça ?
On fait une espèce de...
Un road trip à vélo dans Paris
c'est avec José.
Des bouteilles de rosé partout et il s'arrête de partout pour faire goûter les aux gens, etc. Enfin bref,
on presse 5000 bouteilles.
Ouais.
On est complètement en dehors de la saison du rosé.
En gros,
quand t'es à peu c'est près fini. Normal, le rosé, tu prépares en octobre et puis tu le lances en avril.
Mais oui.
Tu vois, là, on est mi-juin.
Avril,
on est mi-juin, on n'a pas d'étiquette. Gabriel, il nous sort un truc. On signe un contrat, on se met d'accord avec José et on fait le lancement.
Mais quand même, en un mois et demi, vous réussissez à le convaincre, signer un contrat.
Encore une fois, on va vite.
Non, c'est aller vite, mais c'est aussi, tu sais, il y a un moment où il y a des rencontres aussi.
Mmh. Et puis quand l'opportunité, elle est là, il faut avoir l'énergie, le temps, enfin, il faut le faire maintenant, quoi.
C'est ça, mais tu vois, quand on fait cette journée de lancement, José, le mec est incroyable, quand on fait la journée de lancement, ça commence à 14h, on est au resto, les mariachis, le bordel, ça rigole, etc., ça colle un petit peu, tu vois, quand même, bref, on goûte le nouveau rosé, etc. Balade en vélo, on finit, il est... 22h30, un truc comme ça. Donc, on n'a pas arrêté de la journée. Tout le monde est rincé. Je rentre chez moi, 23h30, je reçois un coup de fil de José. Je me dis, merde, putain, il y a un problème. Le mec, il m'appelle pour me dire merci, vous avez été incroyable. Qui est trop sympa. Donc, il y a un moment où l'énergie, quand on te la rend comme ça, bah, t'as juste envie d'aller encore plus vite et encore plus fort et d'accompagner les gens aussi fort qu'ils t'ont accompagné. C'est génial.
Alors, vous avez dit, on a pris des bouteilles, on est allé dans la rue faire goûter. Alors, moi, avec mon agence, on a fait des OP de street marketing où on a fait découvrir des boissons, des choses comme ça.
18h, on a encore rien mangé.
Ouais, il est bientôt 18h.
Il est 18h, merde.
Oui, alors c'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, on enregistre, il est presque l'heure de l'apéro.
au boulot, excusez-moi. Peut-être baisser un peu le micro.
Et comment vous faites à ce moment-là? Parce qu'il faut des autorisations, il faut des
choses. On ne demande rien.
Alors, on prend
des Vélib, ce qu'on t'a dit.
Là, on ne demande rien à personne. On met 50 bouteilles sur le Vélib et tout ça, et on traverse tout Paris comme ça, ce qui rend le truc vachement sympathique. On se fait une petite vidéo, on fait le lancement, on met 5000 bouteilles, on en presse 5000 en disant si on en vend 2000, on est les rois du monde et on aura pour le mariage.
Ouais.
Là... on fout ça sur internet, sur le site deniswa.com, parce qu'on n'avait évidemment aucun client qui pouvait en acheter, normal, parce qu'il faut référencer 8 ans à l'avance, tu vois. Et on met ça sur le site internet, la vidéo est postée, et là, bip, bip, commande. Et on écoule 5000 bouteilles, allez, je sais pas, en
48 heures.
Après, on s'est dit, bon, on va en represser 5000, c'est quand même sympa, on va voir. 48 heures, j'exagère un peu, mais tu vois, c'est un peu le truc, quoi.
Non, mais c'est ça, en gros, en un mois, on a fait 15 000 bouteilles.
15 000 bouteilles.
La première année.
Sur le mois de septembre.
D'accord.
Donc là, en plus, on commence à sympathiser avec José, qui est aujourd'hui un peu genre le... un peu le parrain, tu vois, un peu le paradis niçois. En plus, il est tellement cool, ça marche tellement avec l'apéro, les niçois et tout ça, c'est tellement parfait.
Le meilleur ambassadeur, et puis en plus, je te dis, le mec, enfin vraiment, on a un affect très particulier pour lui parce qu'il est pareil, quand il est avec nous, il bosse plus que nous, quoi. Pareil, c'est un mec qui est incroyable. Donc, on est très, très, très heureux. Et lui aussi, je crois, tu vois, ça le fait marrer. c'est des moments cool. On ouvre, on fait un lancement où il ramène tous ses potes au resto aussi. Ouais. Donc c'est des beaux moments. Pareil, les gens ils viennent, ça rigole. C'est on fait ça une fois par an pour le lancement, deux fois par an, tu vois. Et donc
là, bah, chaque fois au mois d'avril ou.
Alors là, ça sera là 17 mars.
17 mars.
On va faire le lancement de la cuvée 2023. Lieu de tenue secret pour le moment. et on va faire. L'idée c'est de refaire, remettre un peu le bordel pour la cuvée quoi. À consommer avec modération bien sûr. Julien.
Ouais, évidemment. Toujours.
Hein, on va mettre un petit bandeau. Hein. On va mettre un petit bandeau en bas. Mais
dangereux pour la santé.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce que
exactement.
Tu nous prépares d'ailleurs
Alors, un guacamole là pour aller avec. Comme ça, on va faire goûter les petits produits ici.
Avec les...
Exactement. Et après, on va cuisiner un petit peu plus. Mais
alors justement, on n'a pas parlé de cette marque. On a parlé des Niçois, on a parlé du Rosé Garcia, celle-ci.
Bah en fait, on va revenir à Marc.
Okay,
parce que on lance ce fameux Rosé Garcia. Mmh. Et en novembre, arrive l'anniversaire de Marc. On lui envoie une bouteille dédicacée par José. Ouais, le génial. Mec est trop sympa. Donc
il savait même pas qui était José, mais il trouvait ça sympa quand même.
Ouais, alors tu perds un peu du charme du truc.
Tu perds la blague.
Ouais,
mais tu vois, attention, c'est ton anniversaire. Il reçoit une bouteille. Ah, c'est super ça. Merci les Niçois.
Mais José, mais.
Et il dit venez me voir en septembre au bureau à la rentrée. Tu vois, on fait c'est un ça. Petit état des lieux.
Il nous dit venez me voir au bureau. Et là.
Là, on était un peu stressé. Autant le premier déjeuner, voilà. La première salade niçoise.
On savait pas quoi lui dire.
Là, autant, autant en septembre, on avait quand même à peu près les idées claires. On savait, pour parler de Rara, qu'on avait l'envie et on sentait, tu vois, l'intuition que le rayon Tex-Mex mexicain chez nos clients, parce qu'on commençait à être un peu plus professionnel, tu vois. Mm. On voyait que le rayon, en fait, à part il se passe pas grand-chose.
Ouais.
Donc on s'est dit, en fait, on va créer une marque mexicaine, toujours dans l'ADN moment, bordel, un peu sympatoche, tu vois, autour de l'apéro, qu'on avait déjà pitché à Monoprix, qui nous avait répondu, ça nous intéresse.
Ok, vous aviez déjà un accord de principe.
Ouais, on avait l'accord qui disait, ok, lancement en avril pour la nouvelle marque de notre boîte. Donc, tu vois, qui s'appuie sur le storytelling. Puis on avait quand même un peu de confiance aussi maintenant avec nos clients. Donc, ils disaient, ok, ils ont réussi un petit coup avec les Niçois. On leur donne leur chance sur la marque mexicaine qu'on lance, enfin, qu'on crée de zéro. Tu vois. Et donc, c'est tout ça qu'on a présenté à Marc.
Qui était en gros une. C'était juste une version accélérée. Des 6 dernières années des Niçois passés. Parce qu'à la base, moi, j'avais très envie, j'en avais parlé à Olivier avant le Covid, de lancer des taquerias mexicaines à Paris, traditionnelles, tu vois, pas du tacos. Ou
tu l'avais vécu quand tu
étais Mexique. Exactement. Exactement. Donc j'avais ce truc de, justement, c'est encore un moment cool à partager avec des gens. C'est encore des grandes tables où tu bouffes des petites bouchées et tout le monde partage ses assiettes. Donc je lui avais dit, viens, on lance ça, etc. On avait commencé à bosser le truc. Bon, Covid arrive, donc on n'y pense plus. Mais là, en fait, on se dit, ok, bah, on va pivoter l'histoire. On va faire une gamme de produits qu'on va distribuer en GD, notre nouveau métier. Et pour appuyer ce truc-là, eh ben, le resto qu'on n'a pas rouvert, qui est dans le 11e, on va le renommer, on va faire Rajaja Taqueria et on va faire déguster le parcours inverse du restaurant Les Niçois.
Ouais, donc vous avez bénéficié de cette expérience. Ça vous a aidé aussi à aller beaucoup plus vite sur cette marque-là.
Exactement. Mmh. Et donc de créer une marque qui repose l'expérience client sur un lieu. Voilà.
Ok.
Marc nous a accompagnés au final, tu vois. Donc il a cru au projet. On lui a présenté l'histoire de monter une espèce de food label pour accélérer sur l'histoire, pour lancer Rajaja. On a bien évidemment d'autres trucs en tête pour plus tard, mais il a cru, je pense, en nous, au projet. C'est pas non plus un philanthrope, en tout cas pas sur la partie un peu business. Donc il a senti, tu vois, qu'il y avait un potentiel. Donc il a investi chez nous. Il a investi dans la holding.
L'intégralité de nos activités.
D'accord.
Voilà. Et évidemment, ça nous a un peu donné des ailes, un peu de cash. On a pu développer Rajaja.
Ça vous déporte aussi.
Ça vous déporte. Donc ça accélère, ça donne un peu la confiance. On se dit, ok, on a bien fait de dire non. On a bien fait de se prendre des galères pendant du temps. Maintenant, c'est posé. On était confiants sur l'histoire. On avait l'intuition sur Rajaja. Et maintenant, tu vois, on a lancé Rara avec Monoprix en exclu en novembre-décembre.
D'accord, 2023.
2022.
22.
Et cette année, on a réussi à quasiment la mettre sur 70% de tous nos clients les Niçois.
D'accord.
Tu vois, parce que nos clients aussi, ils voient.
Oui, ils connaissent.
Ils connaissent les Niçois, ils font confiance. Ouais. On a déjà des chefs de secteur qui visitent les magasins. Donc, tu vois, il y a une espèce de traction un peu
Bon alors, c'est la vérité, c'est aussi que on a eu l'idée, bossé l'idée et vendu le projet à Marc en lui disant ok, bon, on a les Niçois, on fait cette réorientation. Maintenant, on lance Rajaja en appui la marque mexicaine. Mais à partir du moment où il est rentré avec nous, là, on a pu structurer. Donc là, on a pu recruter des profils.
Voilà, il a apporté de la finance, du réseau, mais est-ce que vous avez aidé aussi à structurer ou organiser la boîte? Enfin voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Vous lâchez une partie du capital aussi.
Ouais.
Donc à la base, je le disais en intro, c'est une histoire entre deux copains.
C'est trois copains maintenant.
Ça devient, voilà.
Une histoire à trois copains, ça. Quatre copains avec José. Tu vois, on est trois, quatre copains autour de la table maintenant. Tu vois.
Donc comment vous gérez ça maintenant?
Bah là, ça nous a permis, avec deux marques, plus de chiffres, de structurer. Donc avant, on avait pris chez Fauchon, chez Ferrero. Là, on a pris un vrai directeur marketing de chez General Mills, mais qui a fait plein de produits, plein de machins, qui est structuré comme un groupe. Ouais. Donc tu vois, maintenant, notre travail, c'est aussi de prendre les talents, tu vois, de s'entourer, parce que nous, on n'est pas des guignols, tu vois, mais il faut prendre les ressources là où on n'est pas bon, sur le marketing, sur les terrains, sur la force commerciale, pour staffer l'équipe. Et aujourd'hui, on est une vingtaine. Ouais, okay. Tu vois, on était deux sur un coin de table au début.
Et aujourd'hui,
là, on est une vingtaine. On n'est pas à 100, 150, tu vois, mais ça devient un PME, tu vois.
Ouais, mais ça nous a permis de lancer de manière bien plus optimisée que celle dont on a lancé les Niçois. Parce que là, les produits, ça a été pensé, ça a été bien construit.
Plus vite, enfin. Et alors, on arrive en plus là bientôt à la fin de l'épisode. On a déjà passé un bon moment. Je pense qu'on va en passer encore un bon. Alors peut-être que tout sera pas dans la caméra, mais on prolongera donc derrière. Vous en êtes où aujourd'hui? Enfin, c'est quoi l'ambition? Et c'est quoi le plan maintenant?
Honnêtement, le plan, c'est en tout cas, c'est continuer à développer les Niçois, accélérer sur la marque mexicaine parce qu'on est au tout début, même si ça a été beaucoup plus vite que les Niçois, on est comme au tout début, il y a un potentiel un peu sympa, tu vois, sur ce créneau, parce qu'en plus, tu vois, il y a un truc un peu, je sais pas si c'est à la mode, mais tu vois, il y a un truc d'appétence et puis il y a pas grand monde, donc on se dit que...
Oui, au final, c'est vrai que c'est peut-être moins de densité concurrentielle que sur d'autres segments.
Donc c'est faire de la croissance sur ces deux marques, le plus vite possible, commencer à faire un peu de rentabilité et tout ça, tu vois, et continuer à exprimer ces deux cerveaux, tu vois, peut-être créer une troisième marque, tu vois, et constituer une espèce de, comme un label, tu vois, une espèce de label musical où tu as plein d'artistes différents,
mais comme avec une, avec il y a toujours ce côté derrière avec, le bon moment,
exactement,
créer des bons souvenirs,
c'est le principe d'un label, tu vois, tu as une identité et après tu vas chercher des artistes complémentaires, mais qui gardent, tu vois, les mêmes valeurs, les mêmes éthiques, les mêmes, tu vois, tout ça.
Par marque, après, l'idée, c'est aussi de s'entourer de célébrités sur d'autres marques ou d'ambassadeurs ou...
Bah, franchement, ça dépend. José, ça tombait bien.
Pour Rara, on a quand même envoyé des produits à Eva Longoria qui a fait une vidéo avec. Ça, c'était quand même
Non, mais comme quoi, oser, tu vois, c'est important, exactement. Parce que... Souvent, on se dit, on a eu de la chance, ou si ou ça, ou c'est impossible, on va pas le faire. Et à un moment donné, vous faites le livre, vous l'envoyez, vous envoyez des produits.
Enfin, non, il faut ça, faire, il faut
tu
faire.
Tu les génères
faire.
Aussi, c'est, enfin, tu les génères ces moments-là, ces opportunités.
Alors après, faut le faire. Il y a plein de trucs qu'on fait, personne ne répond. Hein.
Oui,
tu vois, ça, c'est normal.
On en parle moins, mais on les oublie.
Mais c'est un peu la vie, quoi, tu vois.
Faut je dis toujours, aussi, si tu ne demandes pas, la réponse c'est non. Si tu demandes, ça peut être non, mais ça peut être oui.
Et puis les portes, c'est hyper sain. Tu vois? Les portes, ça te permet de te dire pourquoi je prends la porte. Tu vois, c'est toujours. Il y a aussi des mauvaises raisons de te prendre des portes, tu vois?
Ouais.
Mais c'est toujours stimulant. Tu vois? Et surtout, si tu n'aimes pas prendre des portes et qu'il y a des fenêtres, alors là.
La porte est fermée, tu peux pas.
Là, ça commence à devenir amusant, tu vois.
Ok, bon, bah écoutez, merci à vous deux. On arrive à la fin de cet épisode.
En tout cas, cuisiner assis, pas pratique. Hein.
Ouais, j'imagine que là, t'es pas le meilleur setup pour toi, mais écoute, on va goûter. Je doute pas que ça va être très bon.
Viens goûter les produits.
Alors, justement, pour ceux qui veulent, goûter les produits, donc on a compris Monoprix.
Monoprix.
Les Niçois, c'est au 7 de la rue.
Non, c'est Rajaja, du coup.
C'est Rajaja.
7 rue La Charrière.
Okay. 7 rue La Charrière, dans le 11e.
Les Niçois, donc on vous retrouve
Eh ben, on n'a plus de lieu, donc on ne crée que des moments.
Ok.
Donc en gros, on va faire. Là, on est en train de bosser sur un joli projet pour cette année. On en parlera.
Ok, bon,
regardez sur Insta.
On suivra l'actualité. Avant de conclure, il me reste quelques petites questions à vous poser. La première, et elle est pour chacun d'entre vous, et je. On a probablement des réponses différentes, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous entreprendre ou être entrepreneur ? Olivier, pour toi, ça veut dire quoi ?
Écoute, moi, je sens que j'ai pas tellement le choix.
Ouais.
Je sais pas, c'est entrepreneur, en plus, je trouve que ça fait un peu un gros mot, quoi, tu vois.
Ok.
Mais je sens que j'ai pas tellement le choix parce que je pourrais pas créer ou m'exprimer en dehors de ce que je fais okay. aujourd'hui, tu vois. Enfin,
parce
de la façon, de la forme.
Besoin de créer, si tu
bah, j'ai un peu besoin de créer, quoi, ouais. tu vois. Okay. Donc, après, je pourrais bosser peut-être dans de la pub, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est la seule façon que j'ai de pouvoir créer. Donc, c'est comme ça que je le ressens, tu vois.
Ok.
Et puis, je sais pas, c'est peut-être un truc de liberté, de risque, tu vois, de tout ça, mais bon, ça, c'est, tu vois, c'est un peu l'usage, quoi. Tu vois, c'est un peu les gros mots de l'entrepreneur. Mais moi, c'est ça, en fait. C'est, genre, c'est inhérent dans mon état d'esprit.
Ouais.
C'est ça.
Tu ne te vois pas autrement.
Okay. Pas trop.
Pour toi, Luc ?
Moi, c'est les gros mots de l'entrepreneur. C'est la liberté. Si un jour, j'ai envie de faire un bouquin, qu'on ne m'emmerde pas. Et si le lendemain, je lance un resto, qu'on ne m'emmerde pas non plus.
Pas envie de faire aussi.
Faire des produits, on fait. Et faire un événement.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez tout à l'heure posé la question de comment vous avez structuré ou autre. Parce que ce qu'on ressent dans vos profils aussi, c'est que vous avez ce côté hyper créatif. Le besoin, elle a envie de créer, mais j'en parlais justement sur un autre épisode, il y a souvent, on dit, un dirigeant ou un chef d'entreprise, il doit avoir à un moment donné ce couple, c'est-à-dire explorateur-intégrateur. Le côté explorateur, bon, vous l'avez, vous explorez des pistes, vous en lancez, vous ouvrez des portes. Et après, le côté intégrateur, c'est comment tu structures. Là, vous avez plutôt deux profils créateurs. Est-ce que voilà, aujourd'hui, vous dites, vous êtes plutôt staffé autour de vous, vous êtes bien entouré avec des personnes qui peuvent derrière structurer.
Alors,
vous vous sentez plus fort qu'avant ou...
100%.
Et pour être, en fait, pour que nous, on soit encore plus explorateurs, t'es obligé de structurer en dessous.
Ouais.
Parce que sinon, c'est genre le mur.
Ouais.
C'est pas compliqué. Hein.
Ouais.
Parce que tu peux faire explorateur, on est explorant, on est un créateur, inventeur, je sais pas quoi. Donc, c'est aussi la vie. Et le besoin quand même de faire mieux,
ouais.
Tu te dis bah en fait nous en marketing, produit, grande distribution, en fait on sait pas faire, mais on a même pas envie d'apprendre, parce que il y a quelqu'un qui le fait mieux, bien mieux que nous depuis 20 ans, donc on va aller chercher de la ressource, on va aller chercher des choses sur le commercial, sur le marketing, sur la distribution, sur le digital, sur mieux faire des produits, donc tu vois le savoir-faire qu'on n'a pas. On le délègue.
Vous avez quand même ce recul et cette conscience de ça, je sais pas faire. En fait, soit j'ai envie.
Bah oui, mais parce qu'on n'a pas 20 ans.
Ça fait pas 2 ans qu'on fait ça. L'air de rien, ça fait quand même 10 ans avec des gros rebondissements comme restauration et Covid. Ça fait vraiment mauvais ménage.
Ouais.
Donc, on a appris de nos erreurs. On connaît maintenant un peu les points faibles l'un l'autre, etc. Donc, on est meilleur maintenant après 10 ans. Mais l'air de rien, on n'est toujours pas assez bon pour être autonome sur la grande distribution ou sur les projets qu'on a envie d'entreprendre. Donc effectivement, maintenant, on structure en dessous. Et c'est topissime, très content.
Et c'est vachement valorisant.
Ouais.
C'est-à-dire, quand t'as un mec qui t'apprend et qui fait mieux pour ta boîte que toi, tu pourrais le faire, bah, c'est comme
ouais,
ça qu'il
est...
Bah oui.
Ok, dernière question.
Question. T'as pas goûté les tacos ?
Non, bah on va le faire.
Prends une petite chips. Prends-toi une petite chips.
Prends pas dans le guacamole alors.
Maintenant que vous avez vécu l'expérience, comment t'as fait ?
Tiens.
Passer sur ce micro. Merci. Quel entrepreneur vous pourriez me recommander d'interviewer sur ce podcast et avec qui vous pourriez me mettre en relation ? Quelqu'un qui devrait passer sur ce podcast pour expliquer son parcours.
À qui on peut demander. Je suis pas sûr que Marc soit extrêmement disponible.
Qu'est-ce qu'on pourrait.
Très bon.
Peut-être c'est
Mathieu.
Bon, non.
Ouais, je recommande.
Qui ça?
Mathieu.
Mathieu. Mathieu aussi. On a un bon copain.
Ouais.
Mathieu du Chocolat des Français.
D'accord.
Peut-être que ça te dit quelque chose.
Exactement.
Ouais, qui a monté la marque quasiment en même temps que nous.
Ok.
qui a monté déjà, enfin tu vois, qui a déjà fait un ou deux tours de levée de fonds, et qui lui, alors il, ça n'a rien à voir avec nous, ils sont trois associés.
Merci monsieur.
Mais Mathieu, super bien. Mathieu, c'est intéressant, c'est un de la food, c'est pas de la restauration, c'est pas de la grande distribution. Lui, il est très fort sur le tout ce qui est retail, cadeaux, épicerie fine et tout. Pas tant que ça.
Tu l'as pas goûté encore.
Brice.
Brice, il est derrière la caméra, mais ouais, toi aussi, tu vas y passer.
Ouais. Goûte un peu, Brice. Partage le moment avec nous, Brice.
C'est un bon moment.
Merci, mon vieux. Tiens, Brice.
Ok, donc Mathieu, on va mettre en relation.
Ouais, Mathieu, Mathieu du chocolat des Français.
Ok, on va clôturer cet épisode. Ouais. Merci à vous, Luc, Olivier. Merci pour.
Merci Julien. Merci pour la prise de risque immense.
Tu croques avant la clôture.
Je croque avant la fin.
Pour ta prise de risque immense. Ou
tout rouge, transpirer tout de suite.
Non, pas trop celle-là. Tiens, mets celle-là si tu veux transpirer tout de suite.
C'est quand même le premier épisode de comment vous avez fait. On n'est pas peu fiers. Merci pour l'avant-première.
Oula. C'est bon, ça pique.
Alors attends, après on fera celle-là hors image, hors antenne.
Ah mais ouais, j'ai pas le palais mexicain.
Tous ceux qui veulent nous appeler, nous envoyer des mails, venir travailler avec nous,
allez-y.
Ou avec des grand plaisir. On cherche toujours plein de monde.
Il y a toujours
donc,
plein d'idées.
Si vous embêtez chez je sais pas qui, venez. Même si on cherche pas, on trouvera des postes.
On trouvera une place.
Donc venez à la maison. Luc @lenisois.com.
Allez. C'est parti.
Olivier@lenisois.com.
Ouais, c'est ça.
Merci à vous.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine je partage un épisode avec un ou une ou des entrepreneurs qui reviennent sur leur aventure, sur les hauts, les bas, les galères qu'ils ont rencontrées, mais aussi qui ils sont. Il me reste tout simplement à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Nous, je pense que ça va aller. On va passer un bon moment. Et en tout cas, c'est votre promesse. Et vous souhaitez tout simplement une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye.
C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.